Bonsoir Martin.
Bonsoir Elisabeth.
De quoi on parle ce soir?
Bah pour changer, on va parler un peu d'espace, hein, puisque cette semaine, Rosetta a accosté une comète. On va aussi parler de l'exploration de Mars avec nos invités d'aujourd'hui, donc je me sens obligé de vous parler d'Internet dans l'espace.
T'as raison.
Mais ça ne veut pas dire qu'on va parler Internet par satellite, parce qu'aujourd'hui c'est quasi marginal. Hein. L'Internet par satellite, c'est des débits comme la DSL, mais avec des volumes de données limités comme la 3G, et surtout une latence énorme. Vous savez, la latence, c'est le temps que met un message à voyager d'un point à l'autre et même à la vitesse de la lumière. Ça peut être long, hein. On s'en est bien rendu compte avec Rosetta, puisqu'il fallait attendre 26 minutes oui. pour que le fameux message de confirmation de l'atterrissage arrive jusqu'à la Terre.
Oui.
Comme quoi, si on part à la conquête de l'espace, Internet reviendra à l'âge du pigeon voyageur. Bon, en attendant, alors les satellites de communication terrestre, évidemment, ont beaucoup moins de latence, hein, mais un message met quand même une grosse demi-seconde en moyenne à faire l'aller-retour avec la surface. Donc alors, de la fibre optique, Internet ne passe plus du tout par l'espace quasiment, mais l'espace passe beaucoup par Internet. Les agences spatiales communiquent énormément par des blogs ou les réseaux sociaux. Pour l'atterrissage entre guillemets en direct de Rosetta, hein, l'agence spatiale européenne vous invitait sur son site internet, un site qui a eu un peu de mal avec l'affluence d'ailleurs. La nouvelle mode est aussi de faire des comptes Twitter où les robots qu'on envoie dans l'espace tweetent à la première personne. C'est très mignon. Hein. Sur Twitter, vous retrouverez donc Rosetta et son atterrisseur Philae. Ils ont chacun leur microblog.
Elle a son compte.
Ils ont chacun le leur.
Waouh.
Philae aussi, c'est indépendant.
Classe.
Et la NASA n'est pas en reste, hein, puisque ça fait 2 ans qu'on peut suivre sur Twitter les aventures du rover Curiosity, l'occasion de voir des photos, vidéos, articles explicatifs, etc. En 2014, quand une fusée décolle, on la voit en direct et en vidéo multicanal haute définition par Internet. Pareil pour les photos de toutes les parties possibles de l'espace, en haute définition aussi. C'est surtout que les caméras numériques sont partout, et en fait le numérique tout court est partout dans l'astronomie moderne. Aujourd'hui, un astronome ne met pas son œil dans un gros télescope, en fait il observe depuis l'écran du télescope. Certains télescopes sont même constitués uniquement d'antennes paraboliques, et après moult calculs et retouches, ça donne une image exploitable. Et même dans l'espace, tout est informatisé. Par exemple, à cause de la fameuse latence de la communication, hein, le petit atterrisseur Philae a dû se poser en pilote automatique.
Ah.
Et c'est un sacré défi, hein, songez que ces petits panneaux solaires ne fournissent que 9 watts.
Donc
ça suffira à charger votre téléphone portable, mais là on parle d'ordinateurs dans l'espace, c'est-à-dire des ordinateurs exposés à des températures folles et surtout à des rayonnements magnétiques beaucoup plus puissants que sur le plancher des vaches. Donc l'électronique qu'on envoie dans l'espace est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus résistante que celle qu'on a dans les poches.
Ouais.
Ce qui me rappelle un tweet aussi, qui ressort souvent une réflexion qui dit que nos téléphones malins aujourd'hui sont plus puissants que tous les ordinateurs d'Apollo 11 réunis. Mais au lieu d'aller sur la Lune, on s'en sert pour jouer. Alors, à tous ceux qui ont repris cet aphorisme pseudo-pertinent qui nous ferait culpabiliser de jouer sur un téléphone, rappelons qu'à l'époque d'Apollo 11, hein, les enfants n'avaient pas de jouets électroniques. Alors, imaginez à quoi joue une agence spatiale en 2014.
On préfère pas.
Et puis, écoutez aussi ce qui va suivre, parce que bon, on n'a pas d'image à la radio, mais on a quand même des sons. On en a un qui nous vient de Rosetta. La sonde a capté une vibration magnétique à très très basse fréquence, de l'ordre de 40 mHz. Et cette vibration est émise par la comète Churyumov-Gerasimenko, mais on ne sait pas pourquoi. En tout cas, si on augmente numériquement sa fréquence, pour la rendre audible, ça donne ça. L'Agence spatiale européenne a baptisé cet extrait le chant de la comète.
C'est planant. Donc ça, c'est le chant que la comète fait. C'est le son
c'est
de la comète.
Une vibration magnétique.
Émise par la comète.
Ouais.
Ok.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Ça sonne bien.
C'est assez planant, effectivement.
Très hivernal.
On a l'impression un petit peu d'être au goulag en Sibérie, d'avoir le truc du vent.
Un goulag sur une comète.
Ah, mon Dieu, quelle horreur. Non, tu trouves pas, Thomas ? C'est un peu psyché.
Ah, mais moi, j'adore, moi.
C'est
par contre, je me demande bien pourquoi...
Là, on dirait un peu du Morse.
Ouais, et puis en fait, si t'écoutes au casque, ça passe de droite à gauche, puis de gauche à droite, et puis de droite à gauche. Donc
je pense qu'ils n'ont pas que retouché la fréquence.
Bah, je sais pas, parce que si c'est ça, c'est vraiment
tu
extrêmement
sais,
bizarre.
Ils ont
quoi.
Peut-être fait le montage sur Audacity.
Non, Audacity, je pense pas, non, mais oui.
Ah ouais, c'est comme les photos, l'espace, en fait, c'est très retouché maintenant.
Bah oui, voilà. Donc le son d'une comète. C'est fou, exclusivité sur Radio Campus Grenoble quand même.
C'est la... l'agence le diffuse publiquement sur internet justement.
Je sais pas, j'essaye de faire. Ouais, mais attends, il y a peu de radios qui ont diffusé ça, hein. Non ?
Ici, on écoute tout.
Non mais on va écouter tout. Attends, moi je veux le son de la comète.
C'est fini de toute façon.
C'est
voilà.
Fini, ok.
Voilà,
bah,
tu vois, comme quoi.
C'est pas grave, bah très bien. Merci Martin.
Mais de rien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.